Il est 8h à Kiev, 7h ici à Paris, 6h en temps universel.
RFI Matin.
Le journal, bonjour Martin Guez.
Bonjour Clotilde, bonjour à toutes et à tous.
À la une ce matin, si loin, si proche, Emmanuel Macron et Donald Trump se sont retrouvés à la Maison Blanche.
Proximité et sourire de façade entre les deux présidents. Dans un moment d'éloignement entre l'Europe et les États-Unis, Emmanuel Macron a voulu raccrocher les wagons dans le dossier ukrainien. Nous sommes pour la paix, se sont accordés les deux hommes. Un projet de cessez-le-feu au contour bien flou. Nous serons à Washington avec Guillaume Nodin dès le début de ce journal.
Dans l'actualité également, les premières sanctions à Bruxelles contre le Rwanda.
Les 27 pays de l'UE qui se sont entendus pour rompre le dialogue politique avec Kigali sur les questions de sécurité et de défense. Une première depuis le début de l'avancée du M23 soutenue par l'armée rwandaise dans l'est de la RDC. Un conflit qui a fait au moins 7000 morts depuis janvier, estime la première ministre congolaise Judith Suminwa. À Berlin, le futur chancelier Friedrich Merz se cherche des alliés. Après la victoire des conservateurs aux législatives, il doit maintenant former une coalition pour gouverner. Enfin, la grande Sophie est de retour. En fin de journal, la chanteuse française, célèbre pour son tube Du Courage, prend la plume. Pour Tous les jours, Suzanne, nous dira Sophie Tanlotin.
Sourire et poignée de main hier à Washington, Emmanuel Macron a tenté de faire entendre la voix de l'Europe auprès de Donald Trump.
Dans un moment de rupture entre les États-Unis et le vieux continent, le président français rendait visite pour la première fois aux Républicains depuis son retour à la Maison-Blanche. Derrière les tapes dans le dos et les formules de politesse, Emmanuel Macron a voulu porter la voix des Européens dans le dossier ukrainien pour obtenir un cessez-le-feu au plus vite. Bonjour Guillaume Nodin.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Washington. Nous nous sommes compris, a dit le chef de l'État français, qui voit un chemin possible vers une paix durable en Ukraine.
Oui, manifestement, le président français estime que cette rencontre, qui a duré plus de la moitié de la journée, a été porteuse de progrès. Le premier progrès, c'est qu'après plusieurs jours durant lesquels la tension est montée avec Volodymyr Zelensky, Donald Trump a annoncé qu'il allait rencontrer le président ukrainien dans les prochains jours. Pas pour lui faire une déclaration d'amitié après l'avoir traité de dictateur, mais pour faire ce qu'il préfère faire au monde, conclure un accord qui garantirait l'accès américain aux minerais et aux terres rares de l'Ukraine, très recherchées pour l'électronique notamment. Emmanuel Macron y voit là encore une bonne nouvelle. Pour le président français, si les États-Unis ont des intérêts économiques importants sur place, alors ils ne voudront pas y renoncer et ils voudront bien apporter leur garantie à une paix durable avec la Russie. Et certains pays européens seraient dans ces conditions prêts à y apporter une contribution avec des soldats sur le terrain. Le président français explique même que les discussions dans ce sens ont été approfondies publiquement. Donald Trump est pourtant resté assez flou sur ses potentielles garanties américaines. Il y a donc encore beaucoup à discuter, mais la partie française est persuadée d'avoir fait entendre clairement son message et que cette rencontre de Washington constituera un tournant dans la recherche de la paix.
Merci Guillaume Nodin, correspondant de RFI aux États-Unis à Washington.
Et Vladimir Poutine a aussi pris la parole hier.
Et oui, à l'occasion des 3 ans de l'invasion russe, le président russe qui a affirmé que les Européens, mis de côté dans le dossier ukrainien ces dernières semaines, pourraient participer au règlement du conflit, alors que son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, était en Turquie, à Ankara, où il a rencontré le président Recep Tayyip Erdogan, ainsi que son homologue Hakan Fidan. La Turquie qui joue les funambules dans le dossier ukrainien, Céline Pirmagnani.
Depuis le début de l'agression russe en Ukraine, il y a 3 ans, la Turquie a conservé la même ligne diplomatique, soutenir le camp occidental en tant que membre de l'OTAN, sans pour autant s'aliéner son grand voisin, la Russie. Un exercice d'équilibriste au cours duquel Ankara n'a pas toujours gardé sa cohérence. Elle a par exemple vendu des drones à l'Ukraine, mais n'a pas appliqué les sanctions économiques occidentales contre la Russie. Contrairement à son allié américain qui ne dialogue qu'avec les Russes sur le dossier, la Turquie soutient un processus de paix qui inclut l'Ukraine. Lundi, le ministère des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a renouvelé son souhait d'assurer une médiation entre les deux acteurs, comme au début de la guerre.
Nous sommes convaincus qu'il est possible de trouver une solution grâce à des négociations qui incluront les deux parties. Dans ce cadre, nous sommes prêts à apporter tout type de soutien nécessaire pour établir la paix via ces négociations. Nous sommes également prêts à accueillir les pourparlers, comme nous l'avons déjà fait auparavant.
Dans un entretien accordé à Bloomberg, le ministère des Affaires étrangères avait rappelé le soutien de la Turquie à la candidature ukrainienne à l'OTAN. Des propos tenus en marge de la rencontre pour ne pas contrarier le voisin russe. Céline Pirmagnani, Ankara, RFI.
Enfin, toujours dans le dossier ukrainien, les États-Unis saluent un accord historique du Conseil de sécurité de l'ONU. Les Américains qui ont voté avec la Russie, une résolution assez neutre, sans condamnation de Moscou, qui n'aborde pas la question de la défense des frontières de l'Ukraine. Et on y reviendra avec Vadim Sisonenko, premier conseiller de l'ambassadeur de Russie en France, invité d'Arnaud Pontus, juste après ce journal.
Et dans à peu près un quart d'heure, à Bruxelles, première sanction de l'Union européenne contre le Rwanda.
Ah oui, les 27 ministres des Affaires étrangères réunis ce lundi dans la capitale belge Ils ont décidé de rompre le dialogue politique avec Kigali sur les questions de sécurité et de défense. Il s'agit des toutes premières sanctions depuis les chutes de Goma et de Bukavu dans l'est de la RDC, prises par le M23, soutenues par le Rwanda. La diplomatie européenne enfin à l'œuvre dans ce dossier. Et en premier lieu, Kaya Kallas, haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères.
La situation est très grave et nous sommes au bord d'un conflit régional. L'intégrité territoriale n'est pas négociable, ni au Congo, ni en Ukraine. La charte des Nations Unies s'applique de la même manière partout. Nous soutenons donc clairement le processus de paix de Luanda et de Nairobi afin d'obtenir des résultats par des moyens diplomatiques. Mais nous prenons également plusieurs mesures. Tout d'abord, les consultations de l'Union européenne avec le Rwanda en matière de défense ont été suspendues. Il y a également une décision politique de mettre en œuvre des sanctions en fonction de la situation sur le terrain. Nous avons exhorté le Rwanda à retirer ses troupes et le protocole d'accord concernant les matières premières essentielles sera réexaminé.
Propos recueillis par Pierre Benazé à Bruxelles. La première ministre congolaise Judith Suminwa était à la Genève, en Suisse, devant le Conseil des droits de l'homme. Et elle a avancé le chiffre de 7000 morts depuis le début du mois de janvier dans l'est de la RDC. Pour la plupart des civils, morts dans les combats entre la FRDC et le M23, appuyés par les soldats rwandais. On y revient dans le prochain Journal Afrique, dans une vingtaine de minutes.
L'Union européenne qui suspend par ailleurs ses sanctions contre la Syrie.
Oui, décision saluée par Damas qui voit une étape vers l'atténuation des souffrances des Syriens. Sanctions économiques levées, alors que se poursuit aujourd'hui le dialogue national en Syrie. Nouvelle étape dans la transition, conférence qui a démarré hier dans la capitale. Plusieurs ateliers de discussion sont encore prévus ce mercredi, notamment sur les libertés individuelles et les droits de l'homme.
Il est 7h07 à Berlin, où un nouveau chancelier est appelé à gouverner en Allemagne.
Oui, un nouveau chancelier nommé Merz, Friedrich Merz, leader de la CDU, sorti gagnant des législatives anticipées de dimanche devant le parti d'extrême droite AfD, avec près de 29% des voix. Suffisant pour gagner, mais pas pour gouverner les conservateurs qui se cherchent des alliés. Friedrich Merz tente une grande coalition avec les sociodémocrates du chancelier sortant Olaf Scholz, qui est lui le grand perdant des élections, Pascal Thibault.
Le monde ne nous attend pas. Dans une situation internationale des plus mouvantes, l'Allemagne ne peut pas être aux abonnés absents, explique Friedrich Merz. Le futur chancelier veut aller vite, il n'a qu'une option pour former une coalition, imiter sa rivale de toujours Angela Merkel et s'allier avec les sociaux-démocrates. Hier, les responsables conservateurs faisaient les yeux doux au SPD et en appelaient à leur sens des responsabilités. Friedrich Merz.
Le succès de l'extrême droite est un ultime avertissement aux forces au centre de l'échiquier politique pour trouver des solutions communes. Je suis résolument prêt à relever ce défi. Je veux conduire des discussions constructives et rapides avec les sociaux-démocrates afin que nous puissions disposer d'un gouvernement d'ici Pâques.
Les deux partis ont l'expérience de coalition ensemble, mais le SPD doit digérer un échec historique dimanche et il pèsera moins lourd en cas d'accord. Et puis, Friedrich Merz incarne une CDU plus à droite que la gauche du SPD rejette. Les sociodémocrates négocieront chèrement ce mariage de raison. Déjà hier, on évoquait un possible vote du Bundestag sortant, encore en poste pour un mois, pour adopter une réforme du frein à la dette qui nécessite une majorité des deux tiers. Une telle majorité est incertaine au sein du Parlement élu dimanche. Pascal Thibault, Berlin RFI.
À Rome, dernière chance pour la COP16.
Après l'échec de Cali en Colombie, nouvel essai dans la capitale italienne. 154 pays ont confirmé leur participation pour la suite de la 16e conférence des Nations Unies sur la biodiversité. Dernière chance donc pour dénouer le blocage entre les pays du Nord et ceux du Sud sur les questions de financement et pour stopper les destructions de la nature d'ici 2030. 3 jours de négociations sont à suivre. On y revient dans une heure avec notre dossier du jour, avec Lucille Gimbert. Ce sera dans le journal de Marion Cazeneuve.
Aux États-Unis, Apple investit massivement sur le marché américain.
La marque à la pomme qui veut croquer le marché national à pleines dents. Tenez-vous bien, Clotilde, le géant de la tech vient de présenter un plan d'investissement de 500 milliards de dollars aux États-Unis sur les 4 prochaines années. 4 ans, tiens, qui correspondent à la durée du mandat de Donald Trump. Coïncidence? Pas vraiment. Nathanaël Vitran appelle Apple, qui va notamment ouvrir une nouvelle usine au Texas.
Oui, après avoir racheté Twitter, rebaptisé X, Elon Musk avait déménagé le siège de la très libérale Californie vers le très conservateur État du Texas. En janvier janvier, Meta annonçait en grande pompe que ses équipes de modération seraient désormais basées dans ce bastion républicain. La décision d'Apple d'ouvrir une usine de serveurs pour son intelligence artificielle maison à Houston, au Texas, est donc un nouveau clin d'œil appuyé à Donald Trump et ses alliés. Mais c'est aussi un choix économique dans lequel la Maison Blanche ne manquera pas de voir la consécration de sa politique douanière. Apple, qui produit ou assemble aujourd'hui la grande majorité de ses produits en Chine, fait en effet volte-face en annonçant vouloir soutenir la production sur le sol américain, avec des investissements au Texas donc, mais aussi dans le Michigan, l'Arizona, le Nevada, Washington. En tout, le groupe promet 20 000 embauches en 4 ans aux États-Unis. Il faut dire que contrairement à ce qu'il avait fait lors de son premier mandat, Donald Trump est bien décidé cette fois à ne pas faire d'exception pour les iPhones made in China. Tout ce qui ne sera pas produit aux États-Unis sera taxé.
Nathanaël Vitran du service économie de RFI.
Il est 7h10 à Paris, on termine Martin avec c'est l'heure des Sophies.
Exactement, en fait. De la grande Sophie d'abord. Grande Sophie, chanteuse-compositrice connue en France pour son tube Du Courage. L'artiste est aussi auteur, elle vient de publier un livre épistolaire intitulé « Tous les jours Suzanne ». Une centaine de lettres écrites à une interlocutrice mystérieuse, la grande Sophie, qui s'est confiée à notre Sophie à nous, Sophie Torlotin, du service culture de RFI.
La grande Sophie a beau avoir connu le succès avec notamment ce tube.
Du courage, du courage, du courage.
Avoir enregistré 9 albums, décroché 4 disques d'or et 2 victoires de la musique, il est difficile de prendre de l'âge dans une industrie qui promeut sans cesse de nouveaux visages plus jeunes.
Passer la cinquantaine, c'est un âge assez ingrat dans mon métier, qui est un métier très jeune, et on vous le fait ressentir.
La grande Sophie décide alors de se raconter dans des lettres adressées à Suzanne, une confidente, alter ego ou ange gardien, qui apparaissait déjà dans une de ses chansons.
Moi, j'ai bien changé, Suzanne.
J'ai essayé de m'appuyer sur mon parcours pour raconter d'où je viens, puisque mon parcours est très atypique. Je ne suis pas l'artiste qui a explosé avec un tube dès son premier album. Non, j'ai construit, je suis passée par la scène. J'avais besoin de l'expliquer aussi par mon entourage, de faire passer aussi le lecteur dans les coulisses.
Tu n'existes pas, Suzanne.
Et comme la grande Sophie aime la scène, elle adapte son récit autobiographique dans un spectacle musical qu'elle présentera partout en France cette année.
Réponds-moi, Suzanne.
Suzanne, que des Sophies sur RFI, la grande Sophie, avec Sophie Torlotin de La Sagesse Partout et la grande Sophie en tournée dans toute la France, sur scène à Nantes, notamment ce jeudi, dans l'ouest du pays. Mais pour l'heure, revoici Clotilde Dumay pour la suite de RFI Matin.
L'heure des Sophies et l'heure de Martin Guez pour le journal. Pour le moment, 7h12 à Paris, les combats vont-ils cesser dans les prochaines semaines entre l'Ukraine et la Russie? C'est en tout cas ce qu'espèrent les présidents français et américains. Après la rencontre entre Emmanuel Macron et Donald Trump, que veut Moscou de son côté? Eh bien, Arnaud Pontus va poser la question dans quelques minutes à Vadim Sisonenko, premier conseiller et chef du service presse de l'ambassade de Russie en France. Mais pour le moment, les sports. Avec Victor Missistrano et on commence, Victor, par ce record. On passe d'être battu par une footballeuse de l'équipe de France.
199, Eugénie Le Sommer devrait honorer ce soir sa 199e sélection avec les Bleus au Mans dans l'ouest du pays. Les Françaises affrontent l'Islande dans le cadre de la deuxième journée de Ligue des Nations. À 35 ans, Le Sommer est aussi la meilleure buteuse de l'histoire de la sélection avec 94 réalisations. Ce nouveau record est bien sûr dans un coin de la tête de l'attaquante de l'Olympique Lyonnais, international avec les Bleus depuis 2009.
Ce record, forcément, on en parle depuis maintenant pas mal de temps, presque des années. Donc, quand Sandrine Soubeyran, la première fois, avait battu Lilian Thuram, j'étais là et je m'en rappelle très bien. J'étais là la deuxième fois quand elle a arrêté sa carrière et qu'elle a atteint ce nombre. Donc voilà, c'est un honneur pour moi déjà de l'égaler. Je sais la carrière qu'elle a eue aussi, une longue carrière, beaucoup de matchs, beaucoup de compétitions. C'est une fierté, forcément.
France-Islande, coup d'envoi 20h10, temps universel.
Et 20 minutes plus tard, il y aura le choc du jour en Espagne en demi-finale de Coupe du Roi.
Match aller entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. Pour ce choc entre deux des trois équipes à la lutte pour le titre en Liga, l'incertitude plane quant à la présence de l'attaquant du Barça, Lamine Yamal. Hier, le prodige espagnol de 17 ans ne s'est pas entraîné, alors que ce week-end contre Las Palmas, il avait terminé la rencontre le pied en sang en raison d'un contact avec deux adversaires. Son entraîneur Hansi Flick espère toujours compter sur lui ce soir.
On doit encore attendre, mais je suis optimiste sur le fait que Lamine soit avec nous mardi et qu'il joue. On est vraiment content qu'il soit de retour. À l'avenir, j'espère qu'on protégera davantage les joueurs. Pas seulement les joueurs uniques comme Lamine ou Mbappé, mais tous les joueurs. Ici en Espagne, tout le monde aime les joueurs capables d'éliminer en 1 contre 1. Et dans des équipes comme le Barça ou même le Real, il y en a capables de jouer en 1 contre 2 ou même 3. Les supporters adorent et il faut protéger ça.
Hansi Flick avant Barça-Atlético, demi-finale aller de Coupe du Roi, coup d'envoi 20h30 temps universel. Un peu plus tôt, Clotilde, quart de finale de Coupe d'Italie entre l'Inter Milan et la Lazio Rome.
Et pendant ce temps, en France, le président de l'Olympique de Marseille lui est attendu demain par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel.
Pablo Longoria avait parlé de corruption et critiqué l'arbitrage avec une grande virulence samedi lors de la défaite marseillaise 3-0 à Auxerre. Le dirigeant a regretté ses propos hier dans une interview chez nos confrères de l'AFP. Il risque une lourde suspension.
Et on termine ce journal, Victor, comme on l'a commencé, par un record.
19 comme le nombre de passes décisives du basketteur Nikola Jokic cette nuit dans la victoire de Denver face à Indiana, 125 à 116 en NBA. C'est le meilleur total en carrière pour le pivot serbe, considéré comme le meilleur joueur du monde et spécialiste dans l'exercice qui est en principe réservé plutôt aux meneurs de jeu. Un seul pivot a fait mieux dans l'histoire en NBA, Wilt Chamberlain, avec 21 passes décisives. Ça remonte, c'était en 1968.
Et ça a l'air d'intéresser Stéphane Geneste. Merci Victor Missistrano pour les sports.
RFI Matin.
Stéphane Geneste, que l'on retrouve pour aujourd'hui l'économie. Bonjour Stéphane.
Bonjour Clotilde.
Alors on s'intéresse ce matin à un vaste sujet, l'agriculture, mise à l'honneur jusqu'à dimanche à Paris dans le cadre de son salon international. C'est un secteur essentiel pour la planète, Stéphane, puisque d'après les Nations Unies, près de 870 millions de personnes travaillent dans l'agriculture. Cela représente tout de même un terrien sur 10. En Afrique, par exemple, on estime que 70% de la population en dépend. Et une grande partie du globe, à savoir les pays du Sud, doivent faire face à un défi crucial, Stéphane, le financement de la transition agricole.
Oui, Clotilde, ces pays sont essentiels pour subvenir aux besoins alimentaires mondiaux, mais ils sont aussi et surtout les premiers concernés par le changement climatique et la dégradation des ressources naturelles. Cela les oblige à s'adapter pour faire face à ce phénomène, continuer de nourrir la planète sans oublier d'assurer leur propre sécurité alimentaire.
Et ça, on imagine que c'est pas si simple.
Exactement, car très souvent, pour ne pas dire tout le temps, il faut arbitrer entre limiter l'impact environnemental des cultures et produire davantage. L'un des constats majeurs, c'est que les petits producteurs de ces pays sont des maillons indispensables des filières agricoles. Pour autant, ils sont souvent exclus des financements plus globaux.
Alors, comment faire ?
Eh bien, par exemple, la mise en place de mécanismes de microfinance adaptés aux réalités du terrain. C'est ce que préconise notamment la FARM, la Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde. On peut penser à des crédits aux agriculteurs ou encore donner plus d'importance aux coopératives, des structures qui peuvent jouer le rôle d'intermédiaire entre les producteurs et les financeurs avec un accompagnement de leurs adhérents à l'éducation financière pour mieux appréhender ces changements.
Et donc pour que ça fonctionne, Stéphane, eh bien il faut de l'argent.
Et oui, avec notamment une réorientation des aides publiques. Aujourd'hui, ce sont 540 milliards de dollars qui sont destinés au soutien des producteurs agricoles de ces pays. Pourtant, d'après un rapport de plusieurs organes des Nations Unies, 87% de ce montant est inefficace. Ça ne marche pas, car c'est de l'argent qui est soit mal utilisé, soit mal distribué.
Alors, comment faire face à cette situation ?
Eh bien, ces subventions créent un effet de distorsion sur les prix. Concrètement, elles faussent les prix des denrées alimentaires. Et puis, cet argent n'est pas toujours déployé où il y a des besoins. Exemple concret avec l'Afrique. Malgré le poids de l'agriculture dans l'économie du continent qui représente tout de même un tiers de son PIB, elle reste sous-financée avec seulement 3% des crédits à l'économie alloués à ce secteur.
Et donc quelle réponse on peut apporter, Stéphane ?
Alors l'une des réponses, c'est de mobiliser des investisseurs privés et mettre en place des partenariats publics-privés, mise en pratique bien concrète avec l'investissement de grandes entreprises agroalimentaires dans les pays du Sud. Mais encore faut-il que leurs projets prennent en compte et les besoins locaux et les critères de durabilité. Car on le disait il y a quelques secondes, Clotilde, en fil rouge, comme une épée de Damoclès, il y a le changement climatique. L'une des pistes vantées depuis des dizaines d'années, c'est l'agroécologie. Concrètement, en privilégiant, par exemple, des engrais verts, en opérant une rotation des cultures, en limitant le travail du sol, ou encore en conservant ou replantant des arbres dans les parcelles. Cela signifie, d'après les études, une productivité élevée, couplée à une réduction de l'empreinte environnementale. Pratique peu généralisée aujourd'hui, car l'agro-industrie et l'ensemble des acteurs qui font les marchés agricoles, à savoir les banquiers, les négociants, ne parlent pas toujours de la même chose et n'ont très souvent pas les mêmes objectifs.
Stéphane Geneste pour un Aujourd'hui l'éco spécial agriculture. Il est 7h20 à Paris. Premier conseiller, chef du service presse de l'ambassade de Russie en France, Vadim Sisonenko est l'invité, votre invité Arnaud Pontus sur RFI.
Bonjour Vadim Sisonenko.
Et bonjour à tout le monde.
Après 3 ans de guerre en Ukraine et des dizaines de milliers de morts, est-ce que la Russie souhaite la paix?
Vous savez, la Russie se dit toujours prête à négocier le règlement pas pacifique du conflit ukrainien. Et le président russe Poutine à maintes reprises a dit aussi prête à négocier même avec Zelensky. Seulement, maintenant, c'est la question de sa illégitimité. Mais de toute façon, sa participation dans les négociations avec la Russie sur la crise ukrainienne n'est pas rejetée par la Russie.
Oui. Est-ce qu'il est temps d'arrêter cette guerre? De votre point de vue, du point de vue de la Russie, est-il temps d'en finir avec les combats?
Vous savez donc, si on remonte un peu dans l'histoire de ce conflit-là, l'opération spéciale militaire qui a été déclarée par le président Poutine il y a 3 ans, c'était une réponse plutôt, réponse à la politique agressive de l'OTAN et notamment de la guerre déclenchée par le régime de Kiev contre la population civile de Donbass. C'était une réponse. Et c'est pas la Russie qui a voulu commencer cette opération spéciale militaire.
Et la Russie envahit l'Ukraine, de fait, Vadim Sisonenko.
Elle a pris la responsabilité de mettre fin aux tueries quotidiennes de la population civile de Donbass. Pendant 8 ans, avant l'opération spéciale, c'est chaque jour qu'on a vu les bombardements.
Oui, c'est récit que vous faites des événements.
Oui, c'est ça. Exactement.
Que l'opération a été déclenchée en réponse. C'est le récit russe qui est fait de cette opération depuis le début. Les bombardements dont vous parlez, c'est la guerre du Donbass. 14 000 morts.
Ah, okay.
D'après l'ONU. 3000 civils, 4000 membres des forces ukrainiennes, 6500 membres des groupes armés pro-russes, et c'est de la guerre du Donbass dont vous parlez, qui, selon vous, et selon le narratif russe, est le déclencheur de l'opération qui suit. C'est bien ça? On est d'accord sur l'histoire telle que vous voulez?
Grosso modo, sans quelques détails plus précis.
Telle que vous voulez la raconter depuis le début. Vadim Sisonenko, Donald Trump pense qu'il est possible de mettre fin à la guerre rapidement, en quelques semaines. C'est ce qu'il a dit hier, lors de sa rencontre à Washington avec Emmanuel Macron. Est-ce que vous partagez son point de vue? Est-ce que ça peut aller aussi vite?
Vous savez, la volonté du président américain Trump, on ne peut que féliciter cette volonté de mettre fin à la guerre. De toute façon, toutes les parties du belligérant sont prêts à négocier les conditions du règlement pacifique de ce conflit. Et il y a une différence. Pour la Russie, une chose principale, c'est pas arriver à une trêve. Cela veut dire un cessez-feu, le feu provisoire.
Oui.
Oui, c'est ça.
L'objectif, c'est l'accord de paix final.
Absolument.
Mais
avec une paix durable et solide, pas une trêve.
Une paix durable, solide et juste, ce sont les termes qu'a employé hier Emmanuel Macron, le président français. Sur ces termes, vous êtes d'accord?
Juste, cela veut dire quoi? Juste pour qui?
Ah ben juste du point de vue du droit international.
C'est un peu vague.
Vous savez, c'est un peu vague. Le droit international dit qu'il y a un territoire ukrainien. Non,
c'est un peu vague ce que vous avez dit. Puisque vous savez, ici, l'Union européenne, manifeste toujours une détermination à infliger une défaite stratégique à la Russie. C'est toujours le même. Ou bien, donc, d'obtenir une trêve pour rearmer l'Ukraine et pour présenter à l'Ukraine de se venger. C'est évident. C'est pourquoi ce que nous avons besoin, c'est d'une paix durable à tout jamais. Oui. À tout jamais. Et ici, l'Union européenne se prononce pour les garanties de sécurité de l'Ukraine. Mais personne n'a dit de garanties de sécurité.
J'entends ce que vous dites. Personne ne parle de garanties de sécurité pour la Russie. Mais une fois de plus, c'est la Russie qui a envahi l'Ukraine il y a 3 ans. Donc il est logique d'être dans cette perspective, Vadim Sizodenko.
Ben, de toute façon, je vous ai dit que notre logique, ça c'est de défendre la population, de la population civile de Donbass, qui se sont proclamés indépendants.
On l'a entendu.
Oui, c'est ça.
On l'a entendu. Vadim Sizodenko, pour revenir sur le calendrier, quelques semaines, disent aussi bien les présidents américains que français hier. Quelques semaines pour une trêve ou une paix. Est-ce que ça vous semble possible, ce calendrier et cette rapidité? Possible ou souhaitable?
Vous savez, c'est un peu difficile de vous dire plus précisément de tout sujet, mais de toute façon, les contacts au sommet, Poutine-Trump, ou bien...
Ils ont commencé.
Oui, c'est ça. Une rencontre à Riyad, et ça nous donne de l'optimisme. Prudent, mais quand même, ça nous donne de l'optimisme. On verra ce qu'on peut, on verra les pas, les démarches concrètes et précises à ce sujet.
Oui. Est-ce que Vladimir Poutine est prêt à engager des négociations rapidement?
Donc,
Façon personnelle?
Absolument. Il l'a dit à maintes reprises.
Avec qui le président russe est-il prêt à négocier?
Même avec la partie ukrainienne.
Même avec le président Zelensky, c'est ce que vous dites.
Vous savez, donc...
Alors qu'il l'a qualifié hier de figure toxique, il est prêt à discuter directement avec Volodymyr Zelensky?
Sa légitimité est en question, est en doute.
Parce que son mandat devait se finir en mai 2024, puis du fait de la guerre, il ne pouvait pas y avoir d'élection.
Oui. Puisqu'elle a raté les élections présidentielles.
Certes, mais vous comprenez bien que du fait de la guerre, il était difficile d'organiser des élections dans un pays en guerre.
Ben, de toute façon, il faut essayer de le faire. Ou bien de... C'est pas à moi de donner quelques solutions à Zelensky.
Vous ne voulez pas donner des leçons de démocratie à l'Ukraine, on l'entend. Mais Vladimir Poutine est donc prêt à discuter avec lui?
Je sais pas.
Tout en remettant en cause sa légitimité. Est-ce que c'est une possibilité?
Et il me semble qu'il a déjà prononcé à ce sujet. Il s'est exprimé déjà à ce sujet et assez précisément. Il est prêt à discuter avec Zelensky, mais c'est pas exactement.
À quoi peut ressembler une paix durable dont vous parlez? Ça veut dire cession de territoires qui sont aujourd'hui occupés par la Russie?
Nous parlons maintenant des objectifs de l'opération spéciale militaire.
En quelques mots, s'il vous plaît.
Ah, oui, quelques mots. Il y a donc ces objectifs ont déjà exprimés à maintes reprises par le président Poutine. Ils sont 6 absolument. Ça, c'est la dénazification. Oui, c'est ça. De l'Ukraine, cela veut dire cela. La renonce à l'idéologie néo-nazie. Le rétablissement de tous les droits de la population russophone. Et certainement, il y a rétablissement des droits de l'Église canonique orthodoxe en Ukraine.
Et les territoires?
Pour ce qui est des territoires, il faut reconnaître la réalité sur le terrain.
C'est-à-dire la réalité telle qu'elle est aujourd'hui militaire, c'est-à-dire que les territoires de l'Est seraient russes. C'est ça une paix durable?
Elle était russe. Dans le sens historique,
elle doit l'être à nouveau. C'est oui, ce que c'est vous ça. Dites. Ensuite, merci Vadim Sisonenko. Désolé, nous n'avons plus de temps. Merci d'être venu ce matin sur RFI.
Je vous remercie aussi. Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
lésions des ligaments, luxation de la rotule, arthrose, prendre soin de ses genoux.
Demain,
quand l'addiction fragilise la famille.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI. Tout à l'heure sur RFI, sur le pont des Arts et à Abidjan, Nathalie Amar.
État des lieux d'un marché de l'art contemporain en pleine mutation entre amateurs de belles œuvres, collectionneurs confirmés et investisseurs à la recherche des placements sûrs, artistes et galeristes seront avec nous pour cette dernière émission enregistrée en Côte d'Ivoire.
Sur le pont des Arts avec Nathalie Amar, du lundi au vendredi à 15h10 TU sur RFI.